Bonsoir. Certains membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, 5 ans sigle, et l'église du Christ au Congo ECC sont arrivés ce mercredi 12 février à Goma, au Nord Kivu. Ce voyage s'inscrit dans les cadres des consultations des différents acteurs sociopolitiques pour la cohésion nationale afin de faire face à la crise sécuritaire qui déchire le pays dans sa partie orientale. Cette mission intervient alors que l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, a exprimé mardi 11 février sa désapprobation à l'initiative du dialogue social que prennent les évêques catholiques et protestants. Dans sa déclaration, l'UDPS Tshisekedi a rappelé que les groupes rebelles M23 AFC en tant que groupe armé peuvent être intégrés au processus de Nairobi à l'instar d'autres groupes armés congolais, mais qu'ils ne pourraient pas avoir des négociations directes entre le gouvernement et cette rébellion soutenue par le Rwanda. Insistant sur le caractère laïque de l'État congolais, le président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabuya, a estimé que l'Église ne devrait pas s'immiscer dans les initiatives politiques qui relèvent des prérogatives des autorités légalement établies. Quelle lecture faire de la prise de position de l'UDPS? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 12 février 2025. Participe au débat de ce soir Prince Epengé, président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, parti membre de la plateforme Lamuka. Il est aussi parmi les porte-parole de ce regroupement politique. Prince Epengé, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capitale.
Christian Moleki avec moi dans ce studio, analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleki, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kassa.
Peter Kazadi, avocat, député national élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation, est aussi avec nous dans cette émission. Peter Kazadi, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Kelly. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Okapi.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, YouTube, ainsi que le compte X de Radio Okapi. Et si vous êtes à Kindu, Maniema, merci de nous suivre sur la 103.0. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Plusieurs acteurs, formations politiques et organisations de la société civile dénoncent et rejettent catégoriquement et dénoncent l'initiative de la CENCO-SCC visant à organiser un dialogue national pour résoudre la crise que traverse le pays. C'est le cas de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, parti présidentiel qui, dans une déclaration politique faite mardi à Kinshasa, réaffirme son soutien au processus de Rwanda et de Nairobi comme seul cadre légitime pour résoudre les conflits en cours. D'autres structures qui s'opposent, je voulais dire, à cette démarche des catholiques et protestants sont notamment le mouvement politique Le Centre, le parti politique Les Républicains Chrétiens, LRC en sigle, et l'Observatoire des dépenses publiques, ODEP. Les réactions des uns et des autres dans ce condensé de Grace Amzati.
Dans sa déclaration, l'UDPS Tshisekedi rappelle que le M23 AFC, en tant que groupe armé, peut être intégré au processus de Nairobi, à l'instar d'autres groupes armés congolais, mais qu'il ne saurait y avoir des négociations directes entre le gouvernement et cette rébellion soutenue par le Rwanda. Tout en prônant la cohésion nationale, le parti au pouvoir rejette toute initiative visant à organiser un dialogue politique en dehors des cadres institutionnels existants. Ces partis politiques dénoncent par ailleurs l'attitude de certains acteurs religieux qui l'accuse d'adopter une posture hostile aux institutions de la République. Insistant sur le caractère laïque de l'État congolais, l'UDPS estime que l'Église ne devrait pas s'immiscer dans les initiatives politiques qui relèvent des prérogatives des autorités légalement établies. Convaincu de l'issue favorable de la situation actuelle, l'UDPS réaffirme sa confiance à la capacité de la RDC à préserver son intégrité territoriale et à triompher de cette guerre, peut-on lire dans la déclaration. Pour sa part, dans une lettre ouverte adressée à ces deux églises, Germain Kambinga, président national du mouvement politique Le Centre, qui rejette aussi cette démarche, estime qu'il faut plutôt organiser la défense nationale au lieu de négocier avec l'ennemi qui est le M23. De son côté, le parti politique Les Républicains Chrétiens, LRC, a aussi adressé une lettre ouverte au chef de l'État pour le rejet d'un dialogue. Selon ce parti politique, l'histoire a prouvé que les accords avec les groupes armés n'apportent que fragilité et désintégration. Chaque accord avec une rébellion a engendré d'autres rébellions, prouvant que le langage de la guerre est devenu le seul moyen d'obtenir des concessions de l'État, écrit LRC à Félix Tshisekedi, à qui la formation politique demande de décider en âme et conscience. Dans la foulée, l'Observatoire des dépenses publiques ODEP indique dans un communiqué qu'aucun dialogue ne se tiendra en RDC avec le président du Rwanda et ses supplétifs. Le professeur Florimond Mouteba, le président du conseil d'administration de cette organisation de la société civile, lance un appel à la résistance patriotique, à un sursaut national et à une alliance stratégique entre la société civile et le peuple en révolte, tant en RDC qu'à travers la diaspora. En dépit de toutes ces réactions, les deux confessions religieuses poursuivent leur démarche. Ce mercredi, elles ont rencontré à Goma le coordonnateur de l'alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nangaa, et d'autres dirigeants du groupe rebelle M23.
Et justement, après la rencontre à Goma entre la délégation composée des membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko et l'Église du Christ au Congo, ECC, et le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo FC, FC de Corneille Nangaa et d'autres dirigeants du groupe rebelle M23, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko, appelle ceux qui s'opposent à leur démarche au calme et à comprendre que leur initiative ne vise que la paix. On l'écoute au micro de Grâce Amzati.
À ceux qui ne comprennent pas encore la dynamique de la Senko, LSC, qui sachent qu'ils ont affaire au pasteur qui aime ce pays, au pasteur qui s'engage pour la paix et qui sont ici à Goma dans une mission strictement pastorale. Évidemment qu'il y a des accointances politiques et sur le plan sécuritaire. Et nous sommes là pour défendre la cause du peuple congolais qui a besoin de la paix durable pour bien vivre et aussi bien vivre avec les autres.
C'était là Monseigneur Donatien Cholet. Peter Kiazadi, je rappelle que vous êtes avocat, député national, élu de la ville de Kinshasa. Vous êtes cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Vous avez publié un communiqué, une déclaration politique dénonçant l'initiative des évêques catholiques et protestants concernant le dialogue ou leur démarche pour la cohésion nationale. Qu'est-ce qui vous gêne, vous, du parti présidentiel, dans cette initiative ou dans cette démarche des évêques?
Merci beaucoup, Kelly. Il faut dire que, personnellement, je ne dénonce pas la démarche entreprise par les deux églises. Mais je dénonce leur façon de faire et l'agenda caché dont nous connaissons. J'ai parlé personnellement avec Monseigneur Cholet, vous m'excuserez de le dire comme ça puisque nous avons parlé en privé. Et il plaidait pour que nous puissions faire une plaidoirie dans le cercle du chef pour qu'il soit reçu et que leurs idées puissent être exposées. À l'occasion de nos échanges, je lui ai dit que le chef de l'État n'a jamais été opposé à l'idée des dialogues, mais plutôt...
S'il vous plaît, vous êtes en pleine émission,
en direct. Excusez-moi, je sais... Ils sont au milieu des gens, excusez-moi. Donc je disais que nous ne contestons pas la démarche de la Senko, mais nous désapprouvons leur façon de faire.
Quelle façon?
L'agenda caché, j'ai parlé avec Monseigneur Cholet, je lui ai fait part de plusieurs communications interceptées. Chaque fois que les villes tombent, bon nombre de prélats, des hauts niveaux, appellent Corneille Nangaa pour lui dire félicitations, il faut aller de l'avant. Ils ont fait un voyage vers l'Éthiopie, en clandestinité. Ils ont rencontré quelques leaders politiques là-bas. Ici, je parle de Ambongo et mon cardinal Ambongo et monseigneur Nchole, qui m'a par la suite avoué. Et c'est là qu'ils ont concocté ce qu'ils nous présentent aujourd'hui comme pacte social, avec une mission autre que celle d'unifier les peuples congolais. Pensez-vous qu'un gouvernement responsable, ayant appris toutes ces combines, ces complots qui se trament, menés par les hommes en soutane, puisse être content que ça se passe comme ça? Je voulais parler de notre parti qui est informé de tout ça. C'est comme ça que nous avons pris cette position pour dénoncer les raisons cachées de ce qui est en train de faire. Ça c'est un. Deux, comment est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un dont on sait qu'il est manipulé par le Rwanda qui nous fait la guerre depuis des années, le Rwanda qui tue nos compatriotes, qui pille nos richesses? On prend un Nanga comme auparavant, et tout le monde sait que Nanga ne dispose d'aucun militaire, d'aucune armée, mais on les met devant comme les chefs de cette bande, et dans un effort de la reconstitution du front intérieur pour faire face à cette agression, on va chercher donc ces manipulés des Kagame pour, comme j'ai entendu aujourd'hui, dire que voilà, ils ont un rôle majeur à jouer autour de la table où les vrais Congolais ont se parlé pour cimenter l'unité nationale et aller de l'avant pour faire un assaut final sur l'armée des Kagame qui n'arrête de semer la désolation dans nos rangs. Voilà toutes ces raisons et tant d'autres que je pourrais évoquer tout au long de l'émission qui nous poussent à prendre la position qui est la nôtre aujourd'hui.
Alors, les déclarations que vous venez de faire sont quand même, sont quand même assez graves. Hein. Monseigneur Chollet vous a avoué qu'ils ont rencontré en clandestinité les dirigeants du M23.
Ils ont rencontré exactement Moïse Katumbi, Joseph Kabila et tant d'autres.
Mais ça, c'est pas le M23. C'est quoi le lien entre Moïse Katumbi, Joseph Kabila et le M23?
Non, j'ai dit, je vous parle de ce qu'ils ont rencontré en Capimini et je vous parle des communications qu'ils font à travers le téléphone avec tous ces gens-là. Nous disposons des éléments. Je l'ai déjà dit. Comment voulez-vous qu'un médiateur, ou un arbitre, un adversaire vous donne un bon coup qui vous fait mal et il lui dit félicitations, il faut continuer comme ça, et puis il vient se présenter comme arbitre.
Alors c'est tout ça qui vous pousse donc aujourd'hui à rejeter cette démarche, hein, on peut le dire, cette donc, démarche, cette façon vous, de faire vous, des évêques de la CENCO et l'ECC.
Madame, vous pensez d'après vous, vous trouvez normal que de telles personnes puissent jouer la médiation dans une crise comme celle-ci? Ce qui est important aujourd'hui, c'est la cohésion interne. La cohésion interne exclut tout traître. On ne peut pas vouloir la cohésion interne en intégrant les traîtres, les gens qui sont manipulés par les Rwandais.
Alors, toutes les informations, vous les avez eues.
S'il vous plaît, je vais vous donner la parole,
ne vous inquiétez pas. Toutes ces informations, vous les avez eues avant la rencontre entre les évêques et le président de la République ou après?
J'ai parlé avec Monseigneur Chollet avant qu'il ne rencontre le chef de l'État.
Ils ont rencontré le président de la République. Le président de la République a salué leur initiative, démarche. Il les a même encouragés.
L'initiative, le chef de l'État a salué l'initiative de rassembler des Congolais et non pas de rassembler des traîtres.
Non, c'est une initiative.
Faut faire la différence.
C'est une initiative des évêques de la CENCO et
les CC. Le chef de l'État ne leur a jamais demandé d'aller voir des groupes armés, d'aller voir Kagame, d'aller voir tous ces belligérants qu'ils sont en train d'aller chercher. Il faut voir les Congolais qui se battent démocratiquement, qui se sentent parfois lésés pour une raison ou une autre. C'est avec eux qu'il fallait engager ces débats nationaux internes pour renforcer l'unité nationale et pouvoir faire face à l'agression rwandaise. Mais ici, on va nous amener les Rwandais à la table. Donc, on nous prend les Rwandais, on vient l'asseoir à la table. Alors que nous avons le processus de Luanda.
Nanga
s'était manipulé des Rwandais, madame. C'est tout. Nanga n'a rien à dire devant Kagame. C'est Kagame qui décide de tout. Si Kagame dit on s'arrête, il s'arrête. S'il dit on avance, on avance. Alors, dans le processus de Luanda, nous avons privilégié de négocier directement avec Kagame qui, pour qu'il nous dise ce qu'il cherche sur, dans notre pays. Mais il y a également le processus de Nairobi où tous les groupes armés sont invités, y compris Nanga, s'il se considère comme un groupe armé congolais, il n'a qu'à attendre ce processus-là pour aller parler. Mais ici, créer une autre voie de discussion avec Nanga, sur la même table avec des Congolais comme des Fayoulou qui se battent démocratiquement à l'intérieur du pays, moi je pense que c'est faire le jeu du Rwanda, c'est nous infiltrer.
Prince Epengé, vous êtes président du parti politique Action pour la démocratie et le développement au Congo, membre de la plateforme Lamouka. Que pensez-vous de la déclaration de l'UDPS?
Écoutez, madame, nous pensons que l'UDPS est un parti politique de notre pays. Elle a le droit d'émettre son point de vue par rapport à la situation dramatique que notre pays connaît. Seulement, l'UDPS n'est pas le Congo. L'UDPS n'est pas la nation congolaise. L'UDPS est un parti politique comme ADD Congo, comme SID. Et nous sommes dans un multipartisme intégral. Et ne sont pas dans un multipartisme à parti dominant. Évidemment, que pour comprendre la position de l'UDPS, c'est très simple. Il suffit seulement de faire l'autopsie de son slogan. À l'UDPS, on dit l'UDPS vaincra. On ne dit pas que le peuple vaincra. C'est-à-dire que l'UDPS vaincra pour les biens des membres de l'UDPS, pour leur enrichissement, etc. Raison pour laquelle l'UDPS n'appréhende pas, n'a aucune idée de la situation catastrophique qu'il y a au Nord Kivu, au Sud Kivu et même en Ituri. J'ai toujours dit que pour résoudre un problème, il faut d'abord en avoir conscience. Est-ce qu'à l'UDPS, ils ont conscience qu'un drame est en train de se dérouler en ce moment à l'est du pays? Est-ce qu'ils ont conscience qu'il y a 1 500 000 Congolais qui passent ces nuits dehors, femmes, hommes, enfants, des bébés? Ils ont conscience qu'il y a des milliers de Congolais qui risquent leur vie chaque jour, des dizaines qui meurent chaque jour à l'est du pays? Pourquoi j'ai dit ceci? Parce que la démarche que les pères spirituels ont initiée, c'est une démarche qui consiste à réparer les dégâts que l'UDPS a causés. Les prêtres, les pasteurs d'église de SEC sont en train de chercher comment résoudre avec le moins de dégâts possible tous les problèmes que l'UDPS a créé dans le pays depuis ces 6 dernières et pénibles années qu'on vient de passer avec Félix Tshisekedi au pouvoir. Donc dans ce sens, on s'attendait à ce que l'UDPS accompagne les pères spirituels au lieu de tirer sur eux. Monsieur Peter Kazan s'est contredit quand il dit que nous ne condamnons pas la démarche. Mais en même temps, il dit que les prêtres sont complices, les prêtres sont des mèches avec l'ennemi. Mais de quoi on parle.
Alors, il a dit certains évêques communiquent avec le M23. Il n'a pas généralisé. Hein. Il a parlé de certains évêques et il a même échangé sur ça avec Monseigneur Chollet.
Madame, bon, et ça c'est une façon de nuancer. Et vous l'avez rappelé à juste titre que M. Félix Tshilombo avait reçu le pasteur. Le pasteur avait exposé leur plan, leur feuille de route. Évidemment, nous pouvons supposer qu'il leur avait, les pasteurs avaient promis à Félix qu'ils allaient aussi voir ceux qui détient les armes. Nangapu n'est pas les cités. Et quand Félix avait dit que je vous donne le quitus, allez-y raconter tout le monde, on peut facilement croire qu'écoutez, la démarche des prêtres a été validée par Félix Tshisekedi et les prêtres font le travail et pour lequel ils ont dit au peuple, nous allons voir tous les Congolais doivent parler aux Congolais. Nous, au sein de la coalition Lamuka, au sein de la Didi Congo, avec le président Martin Fayulu, nous avons constaté que les prêtres ont la volonté de réunir les Congolais.
Alors, selon vous, Prince Epengé, s'il vous plaît, selon vous, Prince Epengé, est-ce que vous pensez que l'Église a un rôle à jouer dans la résolution des crises politiques et sécuritaires?
Évidemment, madame. Parce que nous devons partir du principe que M. Félix Tshisekedi a échoué dans sa mission de protéger les Congolais. La déclaration de l'IDPS, la déclaration de M. Kabuya, dit que le gouvernement congolais a la capacité de protéger les Congolais. Mais si le gouvernement avait cette capacité, si M. Félix Tshisekedi avait cette capacité, Goma ne serait pas tombé. Et Bounaga ne serait pas entre les mains des agresseurs depuis presque 3 ans. Et donc, en Sciences Po, on dit que tout pouvoir qui ne répond plus aux besoins du peuple, ce pouvoir devient illégitime. Et donc, dans ce contexte ici, ce que nous pouvons dire, c'est que nos amis de l'île du PES comprennent. Leur souci, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Leur souci, c'est l'enrichissement. Leur souci, c'est le tapis rouge. Et demain, même si c'est Kisangani qui tombe, l'IDPS vous dira toujours Fatih Béton. Il faut qu'il voie la réalité en face.
Merci.
Aujourd'hui, la priorité est sauver la patrie. La priorité est sauver les Congolais. Un Congolais qui meurt, c'est un mort de trop. Voilà ce que nous disons, c'est la coalition Lamuka. Nous disons, ils ont vu Félix Tshisekedi, ils ont vu Martin Fayulu, ils ont vu Sesanga, maintenant ils sont avec Inanga, ils vont aller voir les autres. Pour nous, le plus important, c'est que les Congolais se regardent en face. Comme Lamuka avait dit avec Martin Fayulu, nous voulons qu'on se dise des vérités pour qu'il y ait cohésion nationale, pour qu'il y ait unité au fin de
lorsque vous parlez des Congolais, lorsque vous parlez de tous les Congolais, y compris ceux qui ont pris des armes.
Mais madame, si nous voulons résoudre les problèmes, pas de manière partielle, mais de manière définitive et globale, la démarche de nos pères spirituels est une démarche indiquée, d'écouter tout le monde, qu'on sache pourquoi nous en sommes là, d'où venons-nous, pourquoi on en est là et où allons-nous. Si vous amorcez une démarche sélective, préférentielle, eh bien, comme disait Albert Einstein, on ne peut pas faire les choses de la même manière dans les mêmes conditions et s'entendre à un résultat différent.
Merci, Prince Epengé. On va vous redonner la parole. Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Cette démarche ou initiative de la CENCO et des DCC est aujourd'hui critiquée par certains partis politiques qui estiment que la CENCO et les CC ne sont pas habilités à résoudre ce genre de crise, où on dénonce même le fait pour ces deux églises d'aller rencontrer les rebelles à Goma, au Nord Kivu. Votre analyse par rapport à tout ça?
Bon, déjà, historiquement, l'Église catholique a une tradition de médiation dans les questions politiques du Congo. Il faut se rappeler la conférence nationale souveraine, il faut se rappeler récemment les accords de Sam City, plutôt du centre interne de Cézanne de Kinshasa, qui nous ont permis de régler l'histoire de glissement de 2016 et d'avoir des élections en 2018. Donc il y a une tradition de l'engagement politique de l'Église catholique, même si à côté de cette tradition de médiation, il y a également une tradition de contre-pouvoir qui généralement a tendance à irriter ceux qui sont à la gestion, parce que l'Église s'est également quelquefois positionnée en contre-pouvoir. Donc traditionnellement, l'Église a toujours joué ce rôle. Qu'il s'agisse de l'Église locale ou même des organismes comme Saint-Égidio, qui ont toujours été dans la médiation. Maintenant, le problème, c'est la démarche qui est sur la table aujourd'hui. Est-ce que l'Église est en train de... Les Églises sont en train de faire une forme de bons offices, tenter d'écouter chaque partie pour rapprocher les points de vue, ce qui est un travail préparatoire à un dialogue futur qui pourrait être porté par eux ou par d'autres personnes. Est-ce que ces bons offices sont de nature à irriter la posture gouvernementale? Oui, parce que Kinshasa a construit un narratif de pas dialogue direct. Un narratif qu'il maintient jusque-là, pas dialogue direct avec le M23 et partir avec Nanga. La grande difficulté, c'est qu'en négociation, lorsqu'on tient une posture défensive de ce genre, il faut maintenir un équilibre de force. Et la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, Kinshasa ne maintient pas l'équilibre des forces nécessaire à tenir sa position. Et donc, une position qu'on tient sans équilibre des forces, à un moment donné, devient embarrassant pour vous-même, parce que le fait que l'autre partie déséquilibre le rapport de force de manière unilatérale, eh bien, il vous met en porte-à-faux. Et la grande difficulté de Kinshasa, c'est d'évoluer sur sa position de départ, à savoir, nous ne négocions pas avec les 1-23. Est-ce que les prêtres, en créant cette médiation indirecte, ne sont pas en train de sauver la face du président pour qu'il ne revienne pas sur ses propos, malgré lui? Est-ce que ce n'est pas une porte de sortie qui permettrait de donner voie à une négociation intérieure et pas uniquement dépendre d'une négociation internationale dont on connaît l'agenda? Il y a quelques années, nous avons ramené Edem Kodjo au Congo pour le dialogue. On sait comment, avec Edem Kodjo, les choses sont terminées à Kinshasa. Et donc, il y a également cette dimension-là. La grande difficulté,
mais il y a aussi des Congolais qui se demandent si cette démarche peut réellement aboutir à des résultats significatifs, vu la complexité de la crise.
On ne peut pas tout espérer par un seul processus de dialogue. Le processus de dialogue va donner, s'il est mené jusqu'au bout, ne peut donner qu'une partie des résultats partiels. Parce qu'il y a des questions qui ne trouveront jamais de réponse dans ces genres de forums-là. Des réponses sécuritaires, des réformes sécuritaires, des réponses des questions de vivre ensemble et des questions locales, des questions foncières qui appellent des réformes plus profondes. Ces genres de cadres ne sont pas créés pour répondre à tout. Ces genres de cadres sont créés pour réunir en forme de consensus sur des questions phares, et après, dans la mise en œuvre, il y a énormément d'étapes. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le fait que l'Église catholique particulièrement est en méfiance totale avec le régime. Et donc, pour le régime, entendre Peter Kazadi parler, il parle d'agenda, d'agenda secret, d'agenda cassé, parce qu'il y a une forme d'absence de confiance. Je l'ai dit il y a quelques jours sur votre plateau d'ailleurs, le pouvoir aurait pu prendre l'initiative. Parce que lorsque vous prenez l'initiative, vous avez le contrôle de l'agenda. Vous avez un pouvoir qui n'a pas pris l'initiative, qui n'a pas de cohésion, qui n'a pas pris l'initiative, et donc qui a perdu le contrôle de l'agenda et qui ne veut pas subir. Mais dans cette dynamique d'un pouvoir qui n'a pas le contrôle de l'agenda et qui ne veut pas subir, nous irons vers un blocage.
On va prendre ces auditeurs qui nous appellent sur notre standard avant de lire les réactions des internautes sur la page Facebook de Radio Okapi, qui sont très très nombreux à nous suivre, mais la plupart se plaignent d'avoir un problème de son. La technique va essayer de voir comment résoudre ce problème, ce petit souci technique. Je disais, on va prendre ces auditeurs qui appellent sur le standard. On va se rendre à Isangi, dans la province de la Tchopo, pour écouter cet auditeur.
Je suis Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. La position de l'UDPS face aux consultations initiées par l'Église révèle une contradiction frappante. En 2018, la CENCO était en première ligne pour défendre la démocratie contre une révision constitutionnelle sans que l'UDPS ne dénonce son implication. Aujourd'hui, Augustin Kabuya invoque la laïcité de l'État pour écarter toute médiation ecclésiastique. Cette posture purement opportuniste traduit la volonté du pouvoir de monopoliser la gestion de la crise sécuritaire. Or, ces consultations risquent d'être cosmétiques et sans impact réel car les intérêts politiques priment sur la vie des Congolais. L'Église, dans sa mission prophétique, doit faire preuve de bravoure et éviter de céder à toute intimidation des tenants du pouvoir qui se lassent plus préoccupés par sa survie politique que par la souffrance des populations meurtries dans la partie est du pays.
Peter Kazadi, comment vous réagissez au propos de cet auditeur qui nous a appelé d'Isangi dans la province de la Tchopo? Peter Kazadi, est-ce que vous êtes en ligne? Je crois que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer de le rappeler. Prince Epengé, cette initiative des évêques catholiques et protestants est perçue comme une ingérence politique. Votre réaction?
Madame, il n'y a pas de différence. L'auditeur a bien...
Je ne parle pas de la réaction de l'auditeur de tout à l'heure, au sein de l'opinion congolaise, une certaine catégorie, une certaine personne pense que c'est une ingérence politique de l'Église.
Oui, madame, mais c'est une déduction qui base du contact qui a été fait par votre radio.
On a du mal à vous suivre, essayez de bouger. Pour améliorer la qualité.
Vous m'entendez?
Oui, ça va mieux maintenant.
Oui, donc je disais que cette perception est fondée sur le reportage qui a été fait par votre radio, qui n'a tenu compte que ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais en réalité, madame, la majorité des Congolais soutiennent l'Église catholique et l'Église ECC. D'ailleurs, la laïcité ne veut pas dire l'indifférence. La laïcité est une notion simplement qui veut dire que la place de l'État n'est pas, la place de l'Église plutôt, n'est pas au-dessus de l'État, n'est pas aux côtés de l'État, mais dans l'État. Voyez-vous? Mais la laïcité ne peut pas dire ou ne voudrait pas dire que l'Église peut voir les Congolais mourir à l'est du pays, l'Église peut voir notre pays déchiré par la guerre, que l'Église ne fasse rien. Au contraire, le rôle de l'Église, c'est d'être et d'écouter la vérité. Le rôle de l'Église, c'est d'être ensemble. Et quand l'Église a constaté que la division à l'intérieur du Congo est aussi à la base de ce que nous sommes en train de vivre à l'Est, c'est bon à loi que l'Église puisse prendre son bâton de pèlerin pour aller voir les uns et les autres. Donc nous sommes bien d'accord que l'Église fait un travail tout en observant sa neutralité, mais pas l'indifférence.
Alors, restez en ligne, avant de vous redonner la parole. On va écouter très rapidement cet auditeur de Kananga qui nous appelle.
La position de l'Union pour la démocratie et le progrès social quant à la résolution des crises actuelles est bonne, mais faudrait-il savoir si réellement nous pouvons arriver à une solution adéquate pour l'instauration de la paix de notre pays? Normalement, un État qui s'y connaît ne peut pas discuter avec le rebelle, bien que faisant partie de la guerre. La partie importante et représentante de cette guerre est bel et bien le Rwanda, qui devrait normalement discuter avec le gouvernement congolais pour alléger la tâche. Je n'appuie pas tout ce que pense du UDPS, mais à ce niveau, il est impérial de prouver que le Congo est un État souverain. Certes, l'ennemi se présente robuste sur terrain, c'est au président Félix Tshisekedi de prouver à tout le monde qu'il n'a pas pris la décision de ne pas discuter avec le rebelle, n'était pas un hasard. Donc la décision de l'UDPS est bonne pour imposer la souveraineté nationale.
Alors, Prince Epengé, votre réaction, très brièvement, cet auditeur estime que la réaction de l'UDPS est bonne. Un État normal ne peut pas discuter avec... les rebelles. Prince Epengé.
Que, oui, madame.
Alors,
un État normal, c'est celui qui sait garantir l'intégrité de son territoire. Un État normal, c'est celui qui sait protéger ses enfants. Donc, on peut conclure que si aujourd'hui, il y a plus de 120 localités qui échappent au contrôle de l'État, si des grandes villes comme Goma sous occupation, c'est que le Congo est un État sur le plan théorique. Mais sur le plan pratique, il ne l'est pas. Voilà pourquoi je disais, dès l'entente de mon propos, que l'Église catholique, au contraire, vienne même aux rescousses du pouvoir. Le pouvoir est aux abois. Le pouvoir n'arrive pas à exercer le monopole de la violence légitime à l'intérieur de ses frontières. Et donc, parce que les territoires entiers échappent au contrôle du Congo, l'Église catholique étant toujours une organisation qui veut l'unité du Congo, qui veut la cohésion entre les affaires du Congo, l'Église vient au contraire à rescousse même du régime Tshisekedi. Alors, si l'IDPS n'est pas amusée de comprendre cela, dommage pour elle, parce que l'IDPS est très préoccupée, très occupée à chercher comment manger, comment boire, et nous sommes très désolés. Donc, nous autres, nous pensons que la démarche de l'Église, non seulement qu'elle est appuyée par l'ensemble de notre peuple, mais c'est une démarche pour laquelle nous pensons que si nous leur facilitons la tâche, eh bien nous pouvons arriver à sortir de ces gouffres, à sortir de ces chaos dans lesquels l'IDPS nous a plongés pour que les Congolais retrouvent rapidement la paix. On ne peut plus entendre. Le statu quo actuel n'est pas en faveur du Congo. Nous allons laisser les faits, c'est les faits. Sans effet, les Congolais continuent de mourir. Les territoires continuent à échapper au Congo. Est-ce qu'il y a une autre manière de recouvrir la paix rapidement, tout en préservant l'intégrité du Congo? Parce que nous, au sein de la Mouka, au sein de la DD Congo, avec Martin Fayulu, nous disons que le Congo restera un, unitaire et indivisible.
Merci.
Et si l'Église peut aider à ça, nous leur disons bonne chance.
Alors, Maître Peter Kazadi, la réalisation me signale que vous êtes en ligne. Vous êtes là, Maître Peter Kazadi. Peter Kazadi, est-ce que vous êtes en ligne? Décidément, on a des gros soucis avec sa ligne téléphonique. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Ça sera pour vous, Christian Molika.
Maître Dodé, depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. D'une part, IDPS, en tant que parti politique, n'a pas droit d'interdire aux composantes de la société civile, dont les deux confessions religieuses, de démarcher sur la paix à l'Est. Malheureusement, la démarche des confessions religieuses visant la négociation avec les rebelles peut donner la paix dans un avenir plus proche que les armes, mais en renforçant malheureusement la redevabilité de la RDC envers les Rwandais, puis en fragilisant les institutions de l'État, car elle doit accepter également les belligérants dans la formation du gouvernement futur. D'autre part, suis de même avis que cette même IDPS concernant le refus de tout dialogue avec les Rwandais camouflés dans le M23. Mais question de savoir si le refus de négocier avec le M23 nous soit favorable, alors que sur le terrain nous semblons être moins forts que l'ennemi.
Christian Molika, cet auditeur comprend la démarche et des évêques et la réaction de l'UDPS. Comment? Qu'est-ce que vous avez à dire?
Bon, c'est ambivalent parce que autant les positions s'opposent, autant lui il tente de faire une forme de syncrétisme. C'est assez ambivalent. L'enjeu pour les Congos devait être comme prioritairement la sauvegarde de l'intégrité territoriale. Et les leviers, il y en a plusieurs. Il y a un levier militaire, il y a un levier diplomatique, un levier politique. Le dialogue s'inscrit dans un levier politique qui n'exclut pas le levier diplomatique, qui n'exclut pas le levier militaire. Parce qu'ils peuvent se compléter. Je rappelle qu'en 2013, alors que Goma a été tombé, le levier diplomatique a permis le retrait du M23 de la ville de Goma. Un processus de dialogue s'est mis en place à Kampala. Certains opposants à l'époque le regrettaient, Christian Badibangi y avait même pris part, à Kampala. Et pendant qu'on était en Kampala en train de négocier, la solution militaire a été apportée avec la fin de l'opération Pomerance. Donc il y a moyen de créer des conjonctions de ces différents leviers et ne pas les exclure. Les leviers ne s'opposent pas.
Le problème, c'est comment ceux qui tiennent les leviers travaillent à une forme de synergie entre ces différents leviers, tout en préservant le plus important, à savoir l'intégrité territoriale du pays.
Alors, on a, à part ces partis politiques hein, qui ont dénoncé un peu ou qui ne sont pas pour la démarche des évêques catholiques et protestants, on a suivi aussi le ministre, le porte-parole du gouvernement, hein, fustiger un peu cette démarche des évêques. Est-ce qu'on peut penser que le gouvernement a des inquiétudes hein, quant à l'indépendance même de la démarche de la SENCO et l'ECC?
Il y a déjà, depuis 2021, une forme de, je dirais pas de dynamicalité entre l'Église catholique et les pouvoirs en place. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis 2021, autour notamment de la fameuse désignation des Nanga. Et c'est depuis 2021 que l'ECC s'est rapproché de l'Église catholique, puisqu'ils ont fait éclater la CIMÉ, et qu'ils ont mis en place, en 2023, le fameux Conseil d'observation électorale conjoint. Et donc, il y a une dynamique qui s'est construite depuis 2021, qui malheureusement a renforcé la méfiance entre le gouvernement et l'Église protestante, de sorte qu'aujourd'hui, ce rôle de médiation repose en toile de fond cette méfiance-là permanente entre l'État et l'Église catholique. Et c'est un obstacle important, mais majeur, si on veut faire de la médiation, qu'on s'appuie sur ces éléments de méfiance qui vont envenimer toute démarche. Après, le ministre Muyaya est dans la droite ligne du gouvernement, à savoir, nous gardons le processus de Nairobi, nous n'offrons pas la possibilité d'un dialogue direct avec le 1-23. En tant que porte-parole du gouvernement, sa position est, de mon point de vue, logique. Mais cette posture du gouvernement, je l'ai rappelé, est une posture défensive qui ne peut tenir que lorsque, sur terrain, on met en place un équilibre militaire qui nous permette de négocier. Tenir une position diplomatique qui n'est pas soutenue par un rapport de force militaire, cette position deviendra pour vous-même une corde au cou.
Alors, le problème de sang se pose toujours hein, côté Internet. Hein, les internautes se plaignent de Jonathan Palani et Clément Chimanga. Est-ce que M. Kazadi est en ligne? Il n'est pas revenu, Peter Kazadi n'est pas revenu. Nous sommes presque à la fin de notre émission. On va commencer par vous hein, pour la conclusion. Christian Moleka, quelles recommandations feriez-vous aux différents acteurs impliqués dans la crise? On va commencer par le gouvernement, les groupes armés, la société civile, la communauté internationale.
Au gouvernement, je dirais que le levier diplomatique devrait s'accompagner d'une dimension économique. Parce que les vraies motivations de la guerre sont économiques et le gouvernement devrait proposer des réponses économiques adéquates à ceux qui sont ce qu'on appelle les Sahélans acteurs, qui sont les vrais concernés par la question de la transition énergétique. Et manifestement, nous ne travaillons pas assez en termes de propositions économiques sur notre stratégie diplomatique. Il faut y travailler. À la société civile, je dirais qu'il faut travailler à s'organiser pour essayer de peser en tant que citoyen dans la diplomatie citoyenne. C'est possible de mettre en place une diplomatie citoyenne, mais pour ça aussi, il faudrait une forme de convergence. La société civile aujourd'hui est affaiblie. À l'opposition politique, plus de flexibilité, parce qu'il n'y a pas de cohésion sans concession. Il n'y a pas de dialogue sans concession. Il faut beaucoup plus de flexibilité. Or, aujourd'hui, quand vous suivez les points de vue de certains opposants, il y a de la surenchère et moins de flexibilité, ce qui éloigne encore les possibilités de dialogue. À l'UDPS, je dirais qu'on ne tire jamais sous l'ambulance, parce que vous ne savez pas si demain c'est vous qui l'ambulance va transporter.
Merci Christian Moleka. Valérien Kissembe qui nous suit depuis Kinshasa. L'essentiel est que l'on trouve la paix. L'UDPS et autres qui s'opposent au dialogue, voilà, veulent que les gens continuent à mourir. Nous encourageons les prélats catholiques et protestants à continuer avec leur démarche qui est salutaire. Merci à Charmant Mumbarano qui dit ceci. Nous sommes très très déçus par la déclaration de l'UDPS, voilà. Il nous écrit depuis le Nord Kivu. Merci à... Voilà, vous êtes très très nombreux, hein. Anthony, qui nous suit, Anthony Chimanga, Blondie Mbélé, qui nous suit également. Merci, Prince Epengue, votre conclusion, hein, par rapport à l'émission l'émission de ce soir, l'UDPS, pas seulement l'UDPS, hein, et certains partis politiques qui ne sont pas d'accord avec la démarche de la SANCO-LSCC, le fait d'aller rencontrer les rebelles, parler avec les rebelles pour un quelconque dialogue au niveau national. Ces rebelles doivent aller... doivent se ranger dans le processus de Nairobi comme demandé par les chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Votre conclusion?
Madame, l'UDPS est comme la cigale. Pendant 37 ans de lutte, l'UDPS n'a jamais élaboré une politique nationale de la défense. Venu au pouvoir comme un cheveu dans la soupe, l'UDPS a passé 6 ans au pouvoir en train de faire la fête sans avoir mené des réformes pour sécuriser le pays. Ce qui devait arriver est arrivé. Maintenant, on les appelle à la prise de conscience. Là, ce que les églises font, c'est aider à ce qu'il n'y ait plus de morts. Ça fait 30 ans que la situation dure là-bas. Si cette fois-ci, on peut se regarder en face entre nous, les enfants du Congo, pour dire comment faire pour que Goma retrouve la paix définitivement. Comment les non-Kivu, les Sud-Kivu, l'Ituri, que notre partie du pays-là puisse devenir une œuvre de paix, eh bien, nous disons, nous allons accompagner les évêques. Oui, la paix, nous sommes d'accord. Pas la paix à n'importe quel prix. Nos frères et mères, et nous, la Mouka, avec Fayoulou, nous l'avions déjà dit. En 2019, Martin Fayoulou avait pondu les plans de sortie de crise. Dans ce plan, il avait dit, comme urgence, réforme en profondeur de l'armée. Si l'UDPS nous avait suivi en 2019, 5 ans après, aujourd'hui, on sera en mesure de protéger nos frontières.
Merci.
L'UDPS est complètement dépassé par les événements. Qu'ils comprennent que ce que les évêques font, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. La
Merci,
situation est dramatique. Nous ne pouvons plus continuer à faire semblant.
Merci, Prince Epengé. Ingénieur Dany Mwisha demande au pouvoir de laisser les confessions religieuses faire leur part si vous ne voulez pas que Nanga s'éternise à Goma. Malheureusement, on a perdu Maître Peter Kazadi, on essaie de le rappeler, mais son numéro ne passe pas. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guimaté, Teddy Bikumbi, Bertin Kassiama, Mimi Kinete à la mise en onde, derrière les caméras, Jonathan Folani, Hervé Vokai, Clément Chimanga, Martin Sebujangwe a supervisé cette émission, présentation et coordination, Kéline Kouté. Restez branchés sur Radio Capi.